Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme chacun le sait, en 1990, avec la chute de l'URSS, le monde est entré dans une nouvelle séquence des relations internationales, notamment marquée par une accélération ou un approfondissement de la mondialisation. Après la guerre froide, le monde entre alors dans une phase de recomposition. Il semble que cette phase, chers amis, s'achève à son tour, si bien qu'il est du devoir de chaque pays de s'interroger sur sa place dans le concert des nations, pour contribuer à l'équilibre global, mais aussi pour défendre, bien sûr, ses intérêts. C'est à cette question cruciale, trop souvent absente des débats publics, que s'est consacrée l'Académie des sciences morales et politiques au cours de l'année 2019, à travers son cycle de communication, élaboré, comme le veut la pratique et la tradition, par son président, Georges-Henri Soutou, qui est notre invité de ce jour. Ces communications essentielles à la compréhension de notre monde viennent d'être rassemblées dans un ouvrage publié aux Presses universitaires de France, sous ce titre, l'action extérieure de la France. Monsieur Soutou, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre, bien sûr, de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous en avez été le président en 2019. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont conduite à consacrer son cycle annuel à l'action extérieure de la France ?
Alors, différentes raisons. Par formation, je suis historien. Et évidemment, je ne pouvais pas infliger à mes confrères de l'Académie, qui regroupe des disciplines très variées, pas uniquement universitaires, mais des hauts fonctionnaires, des industriels, des banquiers, des magistrats. Je ne pouvais pas leur infliger un séminaire d'histoire, bien entendu. Il fallait en même temps trouver quelque chose que je puisse à peu près maîtriser, au moins pour choisir des intervenants et orienter le plan de l'année. Il se trouve qu'à côté de mes enseignements d'histoire, je me suis toujours intéressé aux questions actuelles, ce qu'on appelle les questions actuelles, dans le domaine des relations internationales et de la stratégie tout particulièrement. Ça, c'était un thème qui, d'une part, comme vous l'avez rappelé, redevenait très actuel parce qu'on sentait bien qu'on était au moment de basculement entre deux grandes périodes internationales, et qui, d'autre part, était suffisamment large pour intéresser quand même très directement l'ensemble de mes confrères. C'est toujours un point important. Alors, le thème est en gros défini, en fonction aussi de mes capacités, de mes intérêts. Et il fallait trouver un titre. Alors, l'action, tout simplement parce que Goethe l'a dit au commencement, était l'action. Et c'est un assez bon moyen d'entamer les choses. Ça me change des analyses universitaires, l'action c'est très bien. Extérieur, art, on aurait pu dire international. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de mes collègues diraient plutôt action internationale. Mais extérieur, j'ai tenu à extérieur, d'une part parce que ça montre bien l'idée d'une projection volontaire. Le système international, il est constamment en état de réciprocité, si vous voulez. L'action extérieure, c'est vraiment ce que la France décide de faire. À tort ou à raison, peu importe, mais ça vient d'elle. De la France, eh bien, écoutez, pourquoi pas, nous sommes l'Institut de France. Ça reste, à mes yeux, un point de vue tout à fait valable, même si certains le trouvent maintenant démodé. Je rappelle que le sujet est approuvé par l'Assemblée de mes confrères en sciences, n'est-ce pas ? Ça a été approuvé. La dernière raison pour laquelle j'ai bien aimé ce titre « Action extérieure de la France », c'est que je retrouvais dans mes archives un rapport des élèves de l'École nationale d'administration. Ils font chaque année un grand rapport collectif, un rapport qui datait de 1980. 1980, c'est-à-dire 40 ans, bon. Et le titre, c'est très exactement l'action extérieure de la France. Et je pense que ce sera assez amusant de comparer leur travail, qui était très fourni, très sérieux, avec le livre que vous avez bien voulu mentionner, qui fait l'objet de notre séance aujourd'hui. C'est à la fois, bien entendu, comparable et en même temps extrêmement différent. Parce qu'on ne met plus, d'ailleurs, le mot action, exactement les mêmes données. Extérieur, ça a aussi changé de sens. 1980, on imaginait guère ce qu'on appelle aujourd'hui soft power, action culturelle, si vous voulez, artistique, musicale, etc., comme élément d'une politique extérieure. Et puis la France de 1980 est très différente, bien entendu, de la France actuelle. Voilà ce qui m'a conduit à proposer ce programme.
Oui, le titre du livre le dit. Cet ouvrage ne se limite pas à l'action diplomatique, il aborde l'ensemble des leviers qui permettent à un pays d'agir et d'exister sur la scène internationale. Mais ce livre a aussi un sous-titre, Entre ambition et réalisme. Est-ce que le mot-clé ici n'est pas entre? Il n'est pas écrit ambition et réalisme, mais bien entre ambition et réalisme. Cela laisse entendre que dans un monde en mutation, la France hésiterait entre deux postures.
Vous avez exactement compris ce que je voulais dire. Le sous-titre, il est arrivé vraiment à la fin. Quand nous avons rassemblé le matériau au vu de la publication, on a tout revu, on a réorganisé, bien entendu, le plan, puisque les interventions étaient arrivées en fonction des possibilités des uns et des autres, et pas toujours selon un plan logique. Tout a été réorganisé en différentes parties sur lesquelles nous reviendrons. Et il m'a semblé tout à fait clair que s'il fallait tirer trois mots, quatre mots pour définir le point d'aboutissement de pratiquement toutes les interventions, quelles qu'elles soient, aussi bien sur le plan de notre action juridique extérieure, sur le plan du cinéma, de la culture, tout ce que vous voulez, nous avions de grandes ambitions, tout à fait louables. Bon. Et en même temps, nous avons besoin d'un réalisme peut-être pas toujours aussi présent. D'où le titre Entre ambition et réalisme, qui est une très délicate petite critique à la manière académicienne. C'est dit, mais très délicatement. Mais c'est parfaitement clair, bien entendu, et ça l'a été pour tous les intervenants quand ils ont reçu le volume ces derniers jours.
Nous avons appris récemment que le président Valéry Giscard d'Estaing était décédé. C'est lui qui avait utilisé cette formule qui avait choqué à l'époque de la France est une puissance moyenne. N'est-ce pas là finalement le nœud du problème? C'est-à-dire que pour certains pays, leur taille les conduit très naturellement à être des acteurs mondiaux. C'est par exemple le cas des États-Unis. Ils n'ont pas le choix. Combien même ils seraient isolationnistes, ils resteraient un acteur mondial. D'autres, je vais prendre l'exemple de la Belgique, se voient assigner par nature un rôle bien plus modeste. Quant à la France, bien de fait, elle est dans un entre-deux, pas seulement psychologique, mais aussi voilà, une puissance moyenne. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, non?
Oui, alors simplement, je serais là peut-être plus, comment dirais-je, nuancé que vous. L'Athènes de Périclès, qu'est-ce que c'est sur la carte? Pas grand-chose. Non, elle a joué un rôle immense plus près de nous. Si vous prenez les pays européens, il y en a qui exercent une influence, je dis une influence réelle dans tous les domaines, supérieure à leur, je dirais, importance numérique. D'autres n'exploitent pas tous leurs moyens. Et le problème de l'action, le problème de l'influence n'est pas uniquement une question quantitative. Bien entendu, lorsque vous occupez pourcentage considérable du PIB mondial, vous produisez un pourcentage considérable du PIB mondial, vous avez forcément de l'influence. Mais vous pouvez jouer un rôle de conseiller, de promoteur, en choisissant les niches les plus importantes. Prenez par exemple les deux pays européens qui sont dans le domaine de l'innovation en tête. C'est la Suède et la Suisse. Vient ensuite l'Allemagne et nous arrivons après. Bon, et l'Allemagne, bien, elle a des moyens, mais la Suisse et la Suède, c'est parce qu'elles gèrent les niches avec beaucoup de sagesse. Elles n'essaient pas de tout faire. Elles prétendent pas tout faire, c'est pas possible. Mais elles ont repéré ce qui était à la fois extrêmement utile pour tout le monde et pas seulement pour eux, et qui donc leur assurerait une influence, y compris d'ailleurs aussi des bénéfices économiques non négligeables. Si vous prenez par exemple les grandes firmes pharmaceutiques ou chimiques suisses, c'est tout à fait évident. Bon. Et en même temps, des secteurs où ils peuvent, malgré leurs moyens forcément plus faibles, pour des raisons historiques ou pour des raisons particulières d'organisation, etc., arriver au niveau d'excellence indispensable dans la concurrence internationale. C'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing avait été critiqué pour cette expression de puissance moyenne. Il avait à la fois raison, bien sûr, il avait raison, mais en même temps, je pense qu'il avait tort dans la mesure où cela pouvait conduire à baisser les bras, alors que il y a des domaines, encore maintenant, on le voit très très bien, le livre les montre au passage, il y a des domaines où nous jouons un rôle considérable en matière culturelle, en matière d'architecture, en matière artistique, dans certaines spécialités de très haute technologie, matière nucléaire, aéronautique, dans certains secteurs de l'informatique, peut-être un peu moins, mais il y a malgré tout des niches, et nous avons un bilan qui n'est pas du tout négligeable. Si grandes sociétés internationales cherchent souvent à acheter ou racheter des sociétés françaises ou des PME françaises, c'est bien pour ça, n'est-ce pas, bien entendu. Donc, ceci doit être pris avec finesse, si vous voulez. Alors, ce qui est désastreux, c'est de prétendre tout faire au niveau d'une très grande puissance globale. Ça, il est évident que le dernier qui a essayé, c'est Napoléon Ier, ça n'a pas bien marché, n'est-ce pas. Donc, il faut se résigner. Bon. Mais ça laisse quand même une marge considérable. Je reprends l'exemple de la Suisse, que je connais un peu. Elle exerce une influence même diplomatique, n'est-ce pas, parce qu'elle s'est créée un créneau qui est la médiation dans les sciences, les situations de crise. Quand deux pays rompent leurs relations diplomatiques, ils entretiennent des rapports par des intermédiaires, bien entendu, s'il faut continuer, il y a des intérêts économiques, il y a des personnes, des particuliers qui sont coincés sans représentation diplomatique. Et la Suisse assure la moitié des représentations diplomatiques entre pays ayant rompu justement leurs relations diplomatiques, avec également des procédures de médiation dans certaines crises, plus un excellent système universitaire, tout à fait remarquable, plus un certain nombre de grandes sociétés dans des secteurs clés, ça lui assure une influence. Alors, ce genre d'influence bien calculée, avec une vision stratégique, réaliste des choses, c'est tout à fait dans nos moyens, n'est-ce pas? C'est exactement là que nous devons situer nos ambitions. Ne pas prétendre tout faire, mais là où nous avons d'excellentes raisons de nous manifester, de progresser, et y aller à fond, en n'hésitant pas parfois à couper les branches pourries, n'est-ce pas? Il y a certains secteurs que l'on pourrait laisser tomber sans inconvénient, y compris dans le domaine culturel d'ailleurs ou scientifique. Voilà. J'espère avoir à peu près répondu à votre question qui était complexe.
Oui, nous reviendrons à ces différences.
Vous avez...
Votre réponse parle toutefois de niches, de secteurs d'excellence, d'atouts spécifiques. Tout cela implique une sélection sur laquelle nous reviendrons, puisque les moyens sont limités. Mais avant d'y venir, ne faut-il pas brosser un tableau général des enjeux globaux? C'est-à-dire que l'action extérieure, elle se déroule dans un contexte, sur une scène internationale. Comment pourriez-vous la caractériser à grands traits?
Alors, le très grand problème, et c'est le problème de l'année, et si je peux me permettre respectueusement, c'est le problème du président de la République actuel, M. Emmanuel Macron. En 2017, le discours était « Comment adapter la France à la mondialisation ?» qui était considéré comme, disons, irréversible. Enfin, bon. Et en 2020, le problème, c'est comment adapter la France, je ne dirais pas à l'arrêt de la mondialisation, mais un coup d'arrêt de la mondialisation. Il y a actuellement un coup d'arrêt à la mondialisation. On le voit dans toute une série de secteurs qui sont à peu près à l'arrêt, comme le transport aérien, par exemple. On le voit également dans la réorganisation, disons, des courants commerciaux. En ce moment, je dis en ce moment, peut-être pas éternel, en zone géographique plus concentrée. Les historiens comme les économistes, voient d'accord, distinguent entre deux mouvements qui alternent mais qui en même temps coexistent. La mondialisation, qui est un phénomène qui remonte au XVIe siècle, si on veut, enfin, bon, par phases successives, et d'autre part des phases de régionalisation. L'Union européenne, c'est une région économique. Et actuellement, le comptabiliser en étudiant les courants commerciaux, les flux d'investissement et de commerce, vous avez une remontée des grandes régions par rapport au phénomène de la mondialisation qui marque le pas. Et pour la France, ça signifie de revoir sa copie assez largement. Qu'est-ce qu'on fait avec la zone Asie-Pacifique? Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine, bien entendu? Qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis, etc. Dans les années, disons, qui avaient suivi le choc de la crise de 2008, on pensait que la solution, c'était l'extension du commerce international avec des règles multilatérales de comportement mis sur pied entre les différents pays. Par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, on célèbre aujourd'hui l'accord de Paris de 2015, et on pensait que cette concertation internationale très large permettrait de résoudre progressivement les problèmes que, par ailleurs, la mondialisation peut poser, ou l'industrialisation de la planète ont pu poser. Mais on est maintenant dans une phase qui est tout à fait différente, et pas simplement parce que le président Trump a remis en cause pendant son mandat beaucoup de choses, ça va bien au-delà. Tout simplement parce que la planète n'est plus dans la même situation qu'il y a quelques années. Et le problème de notre année 2019, c'est qu'elle se situait entre deux périodes. On le sentait, on le voit maintenant avec encore plus de clarté, avec 6 mois de recul.
Oui, il faut préciser, car c'est très intéressant, que contrairement à ce que l'on lit souvent, ce recul du processus de mondialisation n'est pas dû à la seule crise actuelle du coronavirus, à la crise sanitaire que nous avons vécue en 2020. Ce que vous nous dites, c'est que le reflux avait commencé bien avant.
Tout à fait. Alors, bien entendu, là, vous aurez des interprétations diverses. Moi, je considère que la grande crise de 2008, financière, bon, marquait déjà un premier coup d'arrêt. On ajoutera évidemment à ça le fait que la Chine poursuivit sa politique en se montrant progressivement moins coopérative, n'est-ce pas ? Il y a eu des périodes autour des années 2000 où la Chine, comme d'ailleurs la Russie d'une certaine façon, était plus ouverte à une coopération internationale sur le plan politique dans le cadre des Nations Unies. Ils étaient prêts à accepter, je rappelle qu'ils avaient accepté tous les deux l'opération en fait de l'OTAN contre la Libye en 2011, n'est-ce pas ? Maintenant, ce ne serait évidemment pas envisageable une seconde. Donc, il y a eu là un changement, et bien entendu, les conséquences des soubresauts, des révolutions, des soubresauts de tout le Moyen-Orient, en gros, bon, ont également contribué à remettre en cause l'idée que progressivement on arriverait à calmer la situation au Moyen-Orient dans la foulée ou la trajectoire des accords d'Oslo, n'est-ce pas? Bon, tout ça maintenant est totalement balayé, bien sûr. Bon. On peut prendre d'autres exemples de modifications. Vous avez remarqué que toute une partie de l'ouvrage porte sur les questions de sécurité au sens service secret, hein, soit de renseignement extérieur, soit de contre-ingérence, etc., enfin de sécurité au sens, disons, de la direction de la sécurité intérieure. Bon. Et il faut là constater qu'on n'est plus dans la même situation. Les méthodes de ces services et leurs moyens ont beaucoup évolué, se sont accrus. Sur le plan militaire, la phase précédente a été marquée, je dirais, en gros, la fin de la guerre froide, par toute une série de ce que nous appelons les opérations extérieures. Non, soit pour rétablir la paix ou essayer de limiter les conflits, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, par exemple, soit également contre l'Irak à partir de 1991, et puis par la suite contre Daesh, y compris pour finir actuellement l'opération Barkhane au Sahel, qui est toujours en cours. Et cette idée que le système militaire tournait finalement à la préparation d'opérations extérieures menées avec un but politique de stabilisation de pays fragilisés et de lutte contre le terrorisme, en particulier le terrorisme islamique, eh bien, ça, c'est en train d'évoluer parce que on commençait à le voir en 2019, mais maintenant, c'est tout à fait clair si vous lisez les propos de nos chefs militaires. On se prépare à nouveau à des opérations de haute intensité, à de vraies guerres, entre guillemets, bon, pas simplement des opérations extérieures. Si vous lisez bien les interventions consacrées aux questions de défense et de sécurité à la fin du volume, vous verrez que on pressentait la fin de cette phase d'opération militaire pour revenir à quelque chose d'assez différent. Voilà. Là aussi, c'est un des effets du coup d'arrêt de la mondialisation. Les problèmes de police qu'on pensait pouvoir gérer dans un cadre international plus ou moins soutenu, évidemment, plus ou moins soutenu par l'ONU et le Conseil de sécurité, risquent de laisser la place, enfin commencent à laisser la place à des affrontements beaucoup plus durs et potentiellement beaucoup plus dangereux, soit avec la Russie, ça c'est proche de nous, Crimée, Ukraine, l'inquiétude des pays baltes, soit un peu plus lointain, mais c'est quand même extrêmement précis, la politique de la Chine dans son voisinage, la mer de Chine, éventuellement à propos de Taïwan, peut-être, avec là aussi des conséquences possibles qui sont sérieuses, donc il ne faut pas se dissimuler le sérieux. Voilà. Et là aussi, par rapport à l'optimisme relatif, bien entendu relatif, des années post-guerre froide, c'est un profond changement.
Oui, parmi ces changements, je crois que c'est Thierry Monbrial qui était l'auteur d'une des interventions qui nous explique qu'en 2010, on se retrouve avec une situation radicalement différente puisque nous sommes face à des partenaires, mais aussi compétiteurs, qui disent oui à la modernisation, éventuellement oui à la mondialisation, avec toutes les réserves que vous avez émises, mais non à l'occidentalisation. Bien évidemment, cela change considérablement la donne. Quels sont ces nouveaux acteurs d'ampleur soit régionale, soit mondiale, auxquels nous pouvons être confrontés, acteurs étatiques ou civilisationnels, au contour plus ou moins défini?
Écoutez, vous avez parfaitement mis le doigt sur le point essentiel souligné par Thierry de Montréal. Les Occidentaux concevaient très tranquillement, de façon tout à fait spontanée, et depuis une fois de plus le XVIe siècle, depuis l'expansion européenne dans tous les domaines, que la mondialisation, ce serait en fait la propagation du modèle occidental. Alors, on se rend compte maintenant qu'il y a d'autres modèles d'organisation et même de civilisation, de religion, qui prétendent avoir de meilleures recettes pour organiser le monde. Les dirigeants chinois, et peut-être pas seulement les dirigeants chinois, hein, sont convaincus que le modèle chinois qu'il faudrait développer, enfin peut-être pas juste le moment maintenant, mais que le modèle chinois que tout le monde connaît en gros est plus adapté au monde actuel et en particulier plus adapté pour les pays qu'on appelait sous-développés, enfin qu'on n'appelle plus maintenant sous-développés ou ni même en voie de développement, mais pour tous les pays, je dirais, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, que la voie chinoise du développement extrêmement étatique et contrôlée marche mieux que la voie occidentale, dont on peut se demander effectivement si en ce moment elle marche très bien. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Je prends un ou deux exemples précis. Les organisations internationales multilatérales, comme l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation mondiale de la santé, dont le rôle est évidemment absolument essentiel dans le monde moderne. Si tout le monde est d'accord, au moins en théorie, il y a toujours des intérêts particuliers derrière, mais si tout le monde est d'accord pour reconnaître un ensemble de règles communes, ça peut fonctionner vaille que vaille. À partir du moment où il n'y a plus cet accord général autour des principes qui ont contribué à constituer la base de ces organisations dans la foulée des Nations Unies, qui succédait à la Société des Nations, c'est-à-dire dans la foulée de toute la réflexion occidentale sur l'organisation du monde depuis au moins le 19e siècle, n'est-ce pas? À partir du moment où vous arrivez avec d'autres modèles, d'autres conceptions, qui n'accordent pas du tout la même place, disons, aux droits de l'homme, aux droits de propriété, enfin tout ce que vous voulez, ni la même place à l'individu par rapport au groupe, ce qui finalement revient à l'essentiel du problème. Si vous estimez que les droits individuels de toute nature doivent être à tout prix préservés, eh bien évidemment vous n'aurez pas les mêmes types de politiques économiques ou même de politiques de santé, on le voit bien maintenant, n'est-ce pas ? Il y a des pays où on peut penser que tout le monde sera vacciné d'office. Il y a des pays où on sait bien que ce ne sera pas possible, parce que les gens n'accepteront pas d'être vaccinés d'autorité contre la COVID-19. Je prends un exemple très, très brutal pour me faire comprendre. Ça, c'est un clivage de civilisation qui, d'ailleurs, pouvait être pressenti. Lorsque on a l'ONU, sous l'égide de l'ONU, proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est organisé par une commission, c'était René Cassin qui siégeait pour la France, et c'était la veuve du président Roosevelt qui siégeait pour les États-Unis, c'est pas bon, et présidait même cette commission. Et le représentant chinois, qui était encore en 1948, la Chine nationaliste, la Chine Chiang Kai-shek, qui avait accepté de signer cette déclaration, est allé trouver Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, et lui a dit, écoutez, j'ai signé, bien entendu, nous signons, mais je vous conseillerais quand même de relire Confucius, n'est-ce pas ? C'est tout le problème, relire Confucius. Bon, il y a différents systèmes de culture, de civilisation et de valeurs dans le monde, et on est en train d'en prendre conscience, parce qu'ils n'acceptent plus automatiquement, disons, de se ranger sous une manière largement occidentale. Le président Sarkozy avait une fois, vers 2010, si vous vous souvenez bien, fait une déclaration publique qui allait tout à fait dans ce sens, en reconnaissant que là, on avait un problème.
Votre propos fait écho à un récent ouvrage de votre consoeur Chantal Dessol, faisant le constat d'un crépuscule de l'universel. C'est donc bien dans ce cadre que nous devons agir aujourd'hui ?
Exactement, voilà, c'était l'un des, c'est encore plus net qu'il y a un an, mais enfin c'était quand même, ça faisait partie de l'arrière-fond de l'année 2019 dans nos...
Dans ce tableau général, on voit bien que différentes aires culturelles affirment leurs spécificités. D'ailleurs, pourquoi ne le fera-t-elle pas ? Mais votre propos s'est concentré sur la Chine. N'est-ce pas le reflet du monde qui se met en place ? Dans son intervention, Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fait l'hypothèse que le monde à venir sera soit bipolaire, soit oligopolaire. En l'occurrence, votre propos semble plutôt tendre vers l'émergence d'un monde bipolaire, structuré par la rivalité entre la Chine et les États-Unis.
Oui, alors, bon, vous faites bien de souligner ce point. Je ne voudrais pas être mal compris. C'est une tendance, bien entendu, qui est incontestable à mes yeux. Bon, mais il ne faut pas oublier d'autres facteurs. Le rôle de la Russie est complexe. On ne peut pas totalement l'écarter, mais je voudrais insister sur l'Inde, dont la population dépasse actuellement la population chinoise, dont le développement économique plus chaotique peut-être que celui de la Chine, mais il est bien réel, avec des statistiques probablement beaucoup plus fiables que les statistiques chinoises. Je ne dis pas sans défaut, mais plus fiables. Et il ne faut pas sous-estimer le poids de l'Inde, y compris d'ailleurs vers l'Afrique. Il y a beaucoup de communautés indiennes dans certains pays d'Afrique pour des raisons historiques liées d'ailleurs à l'existence de l'Empire britannique qui avait largement déplacé des populations, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre de l'Empire, des vues de construction impériale. Mais le résultat est là maintenant. Vous ne pouvez pas parler de certains pays d'Afrique sans tenir compte des minorités actives indiennes qui s'y trouvent. Donc ça peut être un peu plus compliqué qu'une simple opposition du type guerre froide, bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. Je vais répondre à votre question encore sous un autre angle. On me demande souvent, est-ce que nous assistons dans le conflit États-Unis-Chine, qui est incontestable, il est dans les faits, et d'autre part, c'est à peu près le seul point sur lequel la nouvelle administration américaine sera d'accord avec la précédente. Et encore plus important, c'est le seul point sur lequel tous les cercles américains, de quelque nature qu'ils soient, universitaires, académiques, scientifiques, fondations, recherche, etc., immédiats, soit d'accord, c'est le problème que pose, à leurs yeux, enfin bon, que pose la Chine. Donc là, on a une bipolarité, polarité qui est honnête. Mais à mon avis, on ne retrouvera pas la configuration de la guerre froide. D'abord, parce que le monde est plus complexe, il y a d'autres acteurs. J'ai cité la Russie et l'Inde. Il ne faut pas sous-estimer non plus les développements possibles, certains pays africains, comme le Nigeria, voire l'Afrique du Sud, ni même les développements de l'Amérique latine, qui n'est plus un simple objet de la politique américaine ou du monde international. Mais surtout, la guerre froide était structurée autour d'un conflit idéologique, bien entendu politique, économique, tout ce qu'on voulait, mais d'abord idéologique. Ce qui, d'une certaine façon, était rassurant, parce que l'objectif n'était pas tellement de transformer l'adversaire, pardonnez-moi, de détruire l'adversaire, que de vaincre, si vous voulez, bon, que de le transformer. Et surtout, le marxisme soviétique avait une vision à très long terme, n'est-ce pas? Ils étaient scientifiquement sûrs d'avoir raison et de gagner pour finir. Comme ils étaient sûrs de gagner à la fin parce que leur système était supérieur au système capitaliste, pensaient-ils, ils pouvaient éventuellement prendre leur temps. Actuellement, c'est certainement le cas de la Chine, qui se donne le temps, ne le cache pas d'ailleurs, c'est dans leurs propos, de grandes phases stratégiques. 50 ans pour ceci, 100 ans pour Taïwan, disait-on, au moment de la réconciliation américano-chinoise. On laissera Taïwan tranquille pendant 100 ans. Enfin, grande phase stratégique. D'autres pays sont plus pressés. Monsieur Poutine, par exemple, est pressé. Beaucoup dépend de lui, de sa présence au pouvoir. Sa survie comme individu, si vous voulez. Il n'a pas le confort qu'avait le politburo soviétique de savoir qu'il détenait une doctrine scientifiquement prouvée qui assurerait la victoire à terme. Ça, c'est très inquiétant. Les dictateurs qui ont de grandes ambitions, qui sont pressés parce qu'ils voudraient finir avant de s'en aller, c'est très dangereux. Il n'y a pas que M. Poutine, on peut penser également à la Turquie.
Oui, parlons un petit peu de la Turquie, parce qu'en ce moment...
Ben oui.
L'actualité, notamment dans ses relations avec la France.
Ben oui, justement. Alors ça éveille-vous, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, on n'en a pas parlé l'an dernier, en 2019, on n'en a pas parlé. Je ne dis pas que de ci, de là, n'aurait pas pu déjà évoquer ce problème. Il n'occupait pas le centre du collimateur, si vous voulez. Bon, comme quoi les choses peuvent évoluer, on peut être surpris. Mais alors là, on en revient à une autre de mes idées lié peut-être à ma profession d'historien, on essaie de comprendre. On n'est pas là pour... Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas là pour condamner les gens, ce n'est pas notre affaire, mais on est là pour essayer de comprendre pourquoi ils ont décidé de faire ça ou de ne pas faire ci. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait dans l'ouvrage que vous avez la gentillesse de présenter, toute une partie consacrée à la vision que les autres se font de la France. C'est intéressant de voir qu'elle n'est pas toujours enthousiaste, pas toujours élogieuse. Nous vivons dans l'idée que tout le monde nous adore. Quand on va regarder de près, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais nous devons faire l'effort de nous mettre à la place des autres. Et même à la place de la Turquie, même à la place de la Turquie, bien entendu, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait un malentendu, et la politique de M. Erdogan actuellement sort des cadres admissibles dans lesquels la Turquie se maintenait depuis en fait en gros le traité de Lausanne de 1923. Là, on est entré dans quelque chose de tout à fait différent et qui pose une série de problèmes à à beaucoup de pays, à tous ses voisins en particulier. Néanmoins, je voudrais juste deux exemples pour me faire comprendre. En Libye, la Turquie soutient avec indiscrétion, mais elle soutient quand même le gouvernement légal reconnu par l'ONU. Nous, il semble que nous soutenions, d'accord avec l'Égypte et la Russie d'ailleurs, les adversaires du gouvernement reconnu par l'ONU, nous Français. Bon, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Autre exemple, c'est la dispute bien connue entre la Grèce et la Turquie. Il est évident que la Turquie, depuis l'occupation du nord de Chypre en 1974, a multiplié les actes contraires au droit international dans la région. Hein, ça, c'est tout à fait clair. En même temps, il y a des cas complexes. Il y a certaines îles grecques qui sont vraiment à une encablure de la côte turque. On ne peut pas, dans ce cas-là, appliquer les règles classiques du droit maritime international sur les zones de souveraineté, les zones exclusives, etc., etc., sans précaution, parce qu'il n'y a pas la place, si vous voulez. Dans les cas de ce genre, c'est fréquent sur la planète, des cas de ce genre, quand il y a doute, on confie la question à un tribunal international qui coupe la poire en deux d'une façon ou d'une autre. Il est tout à fait évident que si un certain nombre des conflits actuels entre la Grèce et la Turquie étaient portés devant des tribunaux internationaux, parce que le droit international ne permet pas toujours de les régler à cause de la situation géographique, telle ou telle île, ou tel ou tel parage maritime, le tribunal international ne donnerait pas toujours tort à la Turquie, loin de là, n'est-ce pas? Bon, même si elle s'y prend très, très brutalement. Là aussi, la Suisse a proposé sa médiation pour essayer de favoriser un règlement gréco-turc sur ce point très spécifique du partage des eaux territoriales ou économiques, qui touche bien entendu aussi la question de l'exploitation pétrolière en mer, évidemment tout ça lié. Je n'ai absolument pas dit qu'il fallait se convertir aux thèses turques, absolument pas, mais il est indispensable de les connaître, de voir les choses de leur point de vue, même si on estime que leur point de vue est erroné, pour pouvoir réagir. D'une part avec justesse, en mettant le doigt sur ce qui est vraiment important, et d'autre part, c'est peut-être encore plus important, pour convaincre nos partenaires. Parce que, bon, vous avez parlé de l'affaire turque, mais nous ne sommes pas suivis, n'est-ce pas? La solidarité européenne ne joue pas vraiment, l'Allemagne ne nous suit pas. On ne sait pas encore aujourd'hui si l'Union européenne finira ou pas par prendre des sanctions contre la Turquie. Tout ça reste encore assez vague parce que nous ne sommes pas suivis pour toute une série de raisons. Ça nous entraînerait trop loin, mais il faut le savoir, n'est-ce pas? Il faut le savoir et pas penser que, à partir de nous, au moment où nous, Français, décidons que quelque chose doit être comme ci ou comme ça, tout le monde va forcément nous suivre. Non, ça non. Voilà.
C'est l'un des points très importants du livre. C'est-à-dire que ce que l'on constate à grands traits, c'est le retour d'un monde peu ou prou tragique où des puissances s'affirment. Voilà, comme l'écrit Jean-David Lévite, l'ère de la domination occidentale s'éloigne. Il va falloir s'y faire et agir intelligemment dans ce nouveau cadre. Mais dans ce cadre de puissance qui s'affirme, on a un peu l'impression, pour reprendre l'expression de Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité, qu'il y a une sorte de solitude stratégique des Européens et au sein de l'Europe, une solitude stratégique française. C'est comme des poupées russes de solitude.
Non, mais vous avez parfaitement raison, c'est très exactement ce qu'on a voulu, chacun avec son point de vue. Je ne dis pas que nous sommes tous d'accord sur tout, mais c'est très exactement le message que les uns et les autres, entre nous, c'est ce que je souhaitais, n'est-ce pas? On transmet, c'est le danger de la solitude. Dans certains cas, c'est une situation de fait, parce que bon, il y en a d'autres, il y a les autres, hein. Et en même temps, parfois parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir suffisamment, je dirais pas en sorte d'exagération de notre propre puissance ou de la justesse de notre cause. Enfin, on ne prend pas le temps d'étudier suffisamment la position des autres. C'est très net, par exemple, avec l'Allemagne. Je reprends, si vous voulez, un des grands moments de l'année, ça a été la communication prononcée par M. Wolfgang Schäuble, qui est un homme politique allemand fort connu, qui était ministre des Affaires entreprises, qui est actuellement président du Bundestag allemand et qui est depuis 4 ans membre associé de mon académie, associé étranger, comme nous disons. Bon, il était chez lui quand il est venu chez nous, si vous voulez. Et il nous a parlé, à partir de là d'ailleurs il a développé des choses, mais il a parlé d'un point central, c'est la coopération, disons, organique qui s'est établie depuis justement l'année dernière entre le Bundestag allemand et le Parlement français par des commissions mixtes, par des discussions en commun, etc., pour essayer justement de mieux faire partager ses points de vue, mieux comprendre le point de vue des autres. Et là, ça demande une analyse en profondeur. Je pense, par exemple, à certaines, lors de l'anniversaire du traité de l'Élysée tout récemment, enfin l'année dernière, bon, il y a eu un traité complémentaire, dans lequel Français et Allemands se sont mis d'accord dans toute une série de domaines, y compris pour gérer en commun certaines questions touchant les régions frontières entre la France et l'Allemagne. Alors, certains ont poussé les hauts cris, disant « Comment nous sacrifions notre souveraineté ?» Non, quand on connaît les réalités humaines, économiques, scientifiques, j'aurais même religieuses, de toutes ces régions de l'Alsace, de Lorraine et de l'autre côté du Pays-Bas, de la Sarre, etc.
La Lotharingie.
Non, mais il y a des liens, il y a des liens humains, il y a des familles qui ont des cousins de l'autre côté, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des liens économiques, il y a des souvenirs historiques qui parfois ne sont pas positifs. Enfin, malgré tout, il y a des liens de toute nature. Il y a des organisations régionales transfrontières qui se sont établies très normalement depuis des années. Et lorsqu'on évoque ces questions de coopération transfrontière entre la France et l'Allemagne, ils existent par exemple avec la Suisse. Avec la Suisse, ça ne gêne personne, mais avec l'Allemagne, les gens vont dire « mais c'est effrayant ». Non, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bénéfique, parce qu'une influence, ça marche dans les deux sens, vous comprenez? La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut de notre côté être dynamique. Si une dame infirmière du côté de Strasbourg, par exemple, va exercer son activité dans un hôpital allemand, qui n'est pas très loin de l'autre côté du pont de Kehl, il y a ça d'avoir quelques raisons. Bon, d'abord, elle peut avoir un minimum d'allemand nécessaire pour se lancer, et ensuite, pardonnez-moi, mais elle augmente son traitement mensuel de façon considérable en traversant le pont de Kehl, et elle se retrouvera dans des services médicaux, disons, correctement organisés. On l'a vu tout récemment. C'est tout cet ensemble extrêmement délicat qu'il faut prendre en compte, pas du tout comme des faiblesses, non, mais au contraire comme des opportunités, éventuellement d'ailleurs comme des incitations à faire mieux de notre côté. C'est ce que j'essayais d'obtenir, je crois qu'on l'a largement obtenu, avec ces exposés sur le point de vue des autres. On ne pouvait pas tout traiter, mais on a parlé de l'Italie, tout à fait passionnant, la façon dont les Italiens nous voient, nous apprécient, plus ou moins sont les cas. C'est une excellente leçon de choses. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Il y a eu également un exposé sur la vision de la France par les Chinois de ma consœur, Madame Bastine Bruguière, qui était extrêmement intéressante, n'est-ce pas? Les Chinois ne nous accordent pas spontanément l'importance que nous donnons. Voilà, en fait, il y a là des choses à rattraper, à faire.
Pour revenir sur le couple franco-allemand, que les questions de voisinage soient résolues, l'Union européenne et d'autres institutions y ont concouru. Toutefois, ce couple existe-t-il vraiment à l'échelle internationale? Il y avait cette fameuse théorie, vous savez, du général de Gaulle, selon laquelle l'Union européenne devait être pour la France un démultiplicateur de force, lui permettant de se hisser au niveau des plus grandes puissances. L'exposé sur la solitude stratégique laisse plutôt entendre que dans ce monde en recomposition, l'Europe serait un acteur absent, sans stratégie, sans véritable capacité à se mettre d'accord sur des objectifs. Je vais être un peu brutal. La Chine a un dessin stratégique, les routes de la soie, et le poursuit avec un certain sens du long terme. De notre côté, quels sont les objectifs stratégiques conjoints ?
Répondre à la deuxième partie de votre question, si on peut le résumer, c'est nous maintenir, voire de progresser au niveau des technologies modernes. L'ensemble scientifique et technique correspondant à ce qu'on appelle les technologies modernes. C'est à peu près le seul endroit où je vois quelques réactions dans ce céphalogramme européen. N'est-ce pas ? Bon. Les routes de la soie chinoise, je ne suis pas absolument certain qu'elle soit très prometteuse pour les Chinois eux-mêmes. Je ne suis pas absolument certain que ça réussira partout et qu'ils n'ont pas une vision trop centralisée, disons un peu dépassée même de l'économie. C'est plus souple que ça aujourd'hui, l'économie. Hein. En 6 mois, vous découvrez que vous devez changer de fournisseur, changer de produit. Enfin, l'économie moderne est, à mon avis, plus agile que les lourdes infrastructures que supposent les routes de la soie. Enfin, on verra, hein, ça je ne veux pas. Bon. Mais l'Europe avait lancé dès 2010, si je me souviens bien avant, un programme de technologie, lié d'ailleurs, appuyé à des programmes de coopération universitaire dans tous les domaines, pas seulement scientifiques et techniques. Je pense que si vous aviez avec nous en ce moment un représentant de la Commission de Bruxelles, il nous dirait « mais ça, c'est l'axe essentiel pour le 21e siècle ». Sans quoi il n'aurait pas tout à fait tort, même si ça ne remplace pas dans certains cas la puissance militaire. Mais la seule chose, et ça c'est à mon avis le vrai problème, comment dire, il y a un clivage juridique au sein de l'Europe et un clivage de système d'organisation. Vous avez des pays à organisation étatique centralisée, comme la France, l'Italie, par exemple, l'Espagne, des pays à organisation centralisée, beaucoup plus décentralisée, disons, l'Allemagne étant un exemple connu. Puis vous avez un deuxième clivage qui s'ajoute, qui est un clivage de type juridique. C'est pour ça que l'exposé, là aussi, de Serge Sûr sur disons, l'exportation de notre modèle, notre influence juridique extérieure était très important. Vous avez des pays qui sont encore, sur le plan juridique, organisés sur le droit romain, et d'autres qui ont adopté depuis longtemps, depuis toujours, éventuellement, le droit coutumier. Sachant que le droit coutumier, sous l'influence américaine, voire britannique, enfin américaine d'abord, gagne du terrain tous les jours. Alors, le droit coutumier, il est extrêmement souple, ce sont des précédents. Hein. À partir du moment où quelqu'un a réussi quelque chose quelque part et a fait accepter son drame, bien c'est un précédent sur lequel on peut s'appuyer. Si vous ajoutez le droit coutumier et la décentralisation de la décision, vous avez une agilité. Alors, c'est fâcheux dans le domaine social où ça se traduit par des risque de mettre en situation difficile les précariser les acteurs. Mais dans le domaine de l'innovation, c'est quand même le domaine central, c'est extrêmement profitable. Alors, l'Europe a compris que son action essentielle doit être dans le domaine de l'innovation, dans tous les domaines, l'innovation médicale, scientifique, intellectuelle, bon, sciences humaines, tout ce que vous voulez. Et simplement, elle n'en a pas les moyens, pas tellement financiers, parce que d'énormes crédits sont consacrés à ça, mais des moyens d'organisation, parce que les systèmes universitaires, les systèmes de recherche, les systèmes d'organisation des industries, de subvention à la recherche, sera extrêmement différent d'un pays à l'autre. Encore aujourd'hui, ça c'est un frein essentiel. Quant à l'autre grand axe de la puissance, on y a déjà fait allusion, on y revient, c'est la puissance militaire, il faut aussi une puissance militaire. Alors, le problème, c'est que nos partenaires européens font confiance à l'Alliance Atlantique. Nous leur disons qu'ils ont tort, car les choses évoluent, l'Alliance Atlantique n'est plus ce qu'elle était, les problèmes qui se posent ne sont plus les mêmes, ce n'est pas simplement la Russie, c'est bien autre chose. Et là, nous avons raison. Mais là où l'Européen nous... C'est là, les Européens nous répondent, mais qu'est-ce que vous proposez à la place de crédible? n'est-ce pas? Même si votre critique du système atlantique, de l'OTAN, du rôle des États-Unis peut être acceptée, qu'est-ce que vous proposez de crédible en cas de crise majeure contre la Russie, éventuellement un jour contre la Chine? Qu'est-ce que vous proposez de concret? Qu'est-ce que vous...
voire même une crise avec la Turquie qui est membre de...
Oui, mais j'ai failli le dire. J'ai failli le dire, mais bon, là, nous sommes quand même dans une émission publique. Je ne veux pas risquer encore de mettre de l'huile sur un feu très actuel et très délicat. Mais vous avez raison, évidemment, vous avez raison. Des conflits majeurs, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on voit revenir la possibilité de conflits majeurs. Les Allemands étaient prêts à nous appuyer du bout des lèvres. Enfin, ils participent à l'opération au Sahel. Il y a un bataillon allemand qui participe. Bon. Mais ça va, ça reste limité. Mais lorsqu'il s'agit de face à la Russie, à tort ou à raison, mais je constate que face à la Russie, il y a maintenant des unités américaines qui se sont déplacées vers la Pologne et les Pays-Baltes. Et ça, c'est pris très au sérieux par nos partenaires comme preuve d'engagement américains. Nous, nous pouvons leur dire, vous avez tort, vous leur faites trop confiance, mais la réponse, elle arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous nous proposez de mieux, hein, voilà. Alors, comme on ne peut pas partager l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion nationale, comme des moyens d'action militaire conventionnels, finalement, nous n'en avons pas tellement. Vous savez, bon, une fois nos opérations extérieures prises en compte, on est très vite assez juste. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pourquoi le facteur, disons, militaire de la puissance ne joue pas actuellement en faveur de ce qu'on appelle la construction européenne. L'innovation, oui, mais il y a les freins que j'ai cités. Quant à l'aspect économique, proprement dit, alors, il est actuellement remis en cause, bien entendu, par la crise. Bon, ça, c'est un truisme, tout le monde le sait. Ce n'était pas prévisible l'an dernier, mais il est remis en cause également par quelque chose qui non seulement a été prévisible, mais a fait l'objet de deux communications, ce qui est beaucoup, c'est le Brexit. Donc, on pouvait encore se demander s'il aurait lieu, effectivement. Maintenant, il est évident qu'il aura lieu, et probablement dans de mauvaises conditions. Hein. On va savoir ça très vite. Or, le départ du Royaume-Uni représente une baisse considérable des ressources financières de l'Union européenne, une baisse de capacité de production, mais surtout, une baisse de capacité de recherche-développement et d'innovation dans le domaine des industries pharmaceutiques, des industries de l'aéronautique, spatiale, de défense, etc., etc. La part britannique est considérable. Dans le domaine militaire, le seul partenaire européen, je dis bien européen, avec lequel nous puissions envisager de mener des opérations, actuellement, on l'avait vu encore en Libye en 2011, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni. Bon. Voilà. Donc, l'Union européenne n'a pas encore pris conscience, enfin, les responsables savent bien, mais on n'a pas encore fait prendre conscience aux citoyens européens de ce que ça allait représenter. Il ne suffit pas de dire « les Anglais sont dégoûtants de nous lâcher », c'est pas le fond du problème. Et sur les conséquences, l'Union européenne perd un atout considérable, une dimension considérable, et pas seulement géographique, bien entendu, mais sur tous les plans. Et ça, que faire à partir de là, avec les Anglais et en général, ce sont des questions qu'on n'a même pas encore sérieusement étudiées, à mon avis.
C'est l'objet de la conclusion de l'ouvrage que vous signez d'ailleurs vous-même. Que faire? Quelle posture choisir dans ce monde où, quand même, les périls semblent croître?
Là, je n'engage que moi. Je n'engage que moi. Je pense que beaucoup de mes confrères ne seraient pas d'accord. Mais, certains, oui, pas tous, disons. Aller à l'essentiel, bon, qui, bien entendu, repose sur. Une reprise en main juridique, parce que nous vivons, nous Français, mais ce ne sont pas les seuls, je prends le cas de la France, dans une grande incertitude juridique, parce qu'à côté de notre édifice juridique national, qui est-ce qu'il est, enfin bon, il y a de plus en plus un édifice juridique européen, avec une remise en cause possible, telle ou telle décision, telle ou telle orientation, pouvant aller bien au-delà de ce qui était prévu au départ, jusqu'à des condamnations devant la Cour européenne de justice à Luxembourg. Au départ, cette Cour avait été fondée pour, évidemment, arbitrer les problèmes à l'intérieur même du cadre de ce qui était encore la communauté économique européenne. Progressivement, son action s'est élargie, d'une part parce que la communauté est devenue l'Union européenne, etc., et d'autre part parce que les juges de Luxembourg ont eux-mêmes élargi leurs compétences. Et dans quoi nous vivons dans une incertitude juridique. Quand on dit en France, on va décider, par exemple, à propos de l'immigration, de faire ci ou de faire ça, d'abord, il y a toute une série d'accords européens et il y a également des décisions françaises qui peuvent parfaitement être condamnées maintenant à Luxembourg. Ça, c'est un premier très grand problème. Il faut, à mon avis, clarification juridique des différents niveaux juridiques en Europe. Alors, on voit actuellement un exemple avec la Pologne et la Hongrie. On a conclu hier un compromis, mais enfin, l'idée est qu'on va les priver d'une aide européenne financière s'ils ne respectent pas absolument la vision qu'ont les institutions européennes de leur évolution juridique. Ça montre bien le genre de problème. Il y a d'autre part un autre problème fondamental, ça commence à évoluer un petit peu, mais c'est le droit de la concurrence européen. Jusqu'à maintenant, certains regroupements entre industriels européens pour créer des champions européens au niveau de la Chine ou des États-Unis, etc. Il y a eu des affaires fameuses, je ne vais pas revenir, mais ont été condamnées par Bruxelles et ont avorté. Là aussi, il faut changer d'attitude au niveau européen. Et ainsi de suite, on pourrait, dans le domaine de l'action, multiplier les voies à explorer. Et je dirais, du point de vue philosophique, revenir à l'essentiel, n'est-ce pas ? Parce qu'on a parfois l'impression que l'Union européenne a constitué un énorme ensemble juridique de règlements, de directives, etc., qui ligote l'action, justement, ligote l'action. Alors, revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est le plus important. L'ennui, c'est que le départ de la Grande-Bretagne ne va probablement pas encourager cette tendance, d'autant plus que, à mon avis, tout le monde n'est pas d'accord, mais à mon avis, c'est la raison essentielle du départ des Britanniques. Il y en a beaucoup, mais la raison essentielle, c'est qu'ils se sentaient englués dans quelque chose d'abord qu'ils ne contrôlaient pas, ce qui est tout à fait contraire à leur sentiment, à leur tradition de souveraineté nationale, et d'autre part, qu'ils ne leur paraissaient pas correspondre au monde tel qu'il devrait, aux réactions en tout cas nécessaires face au monde tel qu'il évolue, c'est la réactivité, la vitesse, l'innovation, la capacité de réagir extrêmement vite sur tous les plans, pas simplement technologiques, mais également militaires, politiques, etc. J'espère avoir répondu à peu près à votre question. Mais il est très difficile de mener une action nationale française sans se risquer de se séparer, et là c'est totalement inutile, c'est dangereux, des partenaires. Donc il faut également un effort de pédagogie, et je reviens à ce que je disais toujours, cet effort de pédagogie auquel je ne renonce pas, parce que je pourrais vous trouver, j'ai dans mon ordinateur des textes, des déclarations, des articles qui montrent que nos partenaires aussi comprennent à peu près ce que je viens d'essayer de vous dire, ou peuvent tout à fait l'admettre, mais il faut leur présenter les choses en tenant compte de leur point de vue. C'est un effort d'information, de pédagogie envers nous-mêmes, et également de pédagogie envers nos partenaires. Je pense que ce serait la condition de l'action maintenant. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aussi, à la fois au niveau français et au niveau européen, à un raisonnement plus pragmatique et plus pratique? C'est-à-dire que c'est un mot qui est très mal vu aujourd'hui, c'est celui d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau français et au niveau européen, on a l'impression, c'est Thierry Monbrial qui le souligne, qu'on invoque plus facilement des valeurs que des intérêts. La difficulté, c'est que des valeurs, c'est difficilement négociable, alors que des intérêts, après tout, on pose les choses sur la table et on peut trouver des points d'accord, peut-être plus facilement. C'est-à-dire qu'un monde d'interaction, contrairement à ce qu'on pourrait spontanément croire, pourrait plus facilement s'accommoder d'une réflexion et d'une discussion sur des intérêts que sur des valeurs.
Oui, non, mais ça, c'est sûr. Je n'ai pas dit qu'il ne faille pas un minimum de valeurs partagées, mais on galvaude actuellement le mot valeur. Vous comprenez? Tout devient valeur. Alors, y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si on considérait tout à fait normal, encore des années 60, que même au sein de l'Europe, enfin de ce qui était encore la communauté européenne, les législations soient très différentes dans toute une série de domaines. La peine de mort était supprimée dans certains pays, pas dans d'autres. Bon, bien, je sais pas que c'était bien ou mal, mais enfin, en tout cas, c'était considéré comme tout à fait acceptable. À partir du moment où tout le monde ne se mettait pas à massacrer des populations entières sans aucun frein, comme on l'avait vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et donc là, vous avez parfaitement raison. J'ajouterais un point. Il y a des cas où les valeurs mises en avant et brandies comme des drapeaux recouvrent en fait certains intérêts, n'est-ce pas? Bon.
Certes.
Bon, voilà. Eh bien, un minimum d'hypocrisie, je dis toujours que l'hypocrisie est un carburant essentiel des relations internationales. Peut-être aussi des relations sociales en général, mais des relations internationales, si vous n'avez pas un minimum d'hypocrisie, ça ne fonctionne pas. Parce que les intérêts doivent être présentés quand même, de certaines façons, entourés d'un peu d'huile parfumée, odorante, enfin bon. Donc il faut parfois un peu d'hypocrisie, d'ambiguïté.
En somme, oui aux valeurs, mais pas aux dépens des intérêts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le monde décrit dans l'ouvrage, je précise d'ailleurs à nos auteurs que cet ouvrage compte 600 pages, mais qu'il peut se lire au fil des jours, comme il était diffusé d'ailleurs au cours de toute une année, puisqu'il s'agit d'une compilation d'interventions, que ces 600 pages n'effrayent donc personne, car il suffit de lire chaque semaine une intervention pour avoir à la fin de l'année une vision complète des enjeux. Et Dieu sait s'ils sont cruciaux, puisque nous sommes, nous l'avons dit, dans une phase de mutation de l'ordre international, qui oblige à avoir une vision juste du monde qui nous entoure, mais aussi de la place que nous occupons dans ce tableau. Une place à choisir sans céder ni au déni, ni au dénigrement, pour retrouver, en somme, une position réaliste. C'est peut-être d'ailleurs cela le mot de la fin et le fil conducteur de l'ouvrage, le réalisme.
Tout à fait, c'est d'ailleurs très exactement, ce sera un des derniers mots que j'utilise dans la conclusion. Et les lecteurs auront, sous un format quand même qui reste commode, l'ensemble raisonné des problèmes qui se posent à notre continent, à notre pays en particulier, et des pistes de réflexion. Je n'ai pas dit des solutions, mais en tout cas, ce n'était pas notre propos, mais des pistes de réflexion pour imaginer des solutions possible, pas des rêveries, mais pas des mythes, mais des solutions pensables, des solutions possibles en coopération avec nos partenaires. Voilà.
Eh bien, à l'issue de ce vaste panorama des enjeux contemporains, il me reste à donner les références de l'ouvrage pour que chacun puisse se le procurer. Il s'agit donc de l'action extérieure de la France sous la direction de Georges-Henri Soutou, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation, et c'est aux Presses universitaires de France. Merci encore, monsieur.
Merci à vous, merci beaucoup, et merci à Canal Académie.